Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 20 avril, il est 8h30, j'y ai pensé trop tard, mais j'y ai pensé ce matin à la raquette de tennis de table, mais il s'en fout parce que de toute façon pour lui c'est pas un vrai sport, alors que je lui mets des tôles à la technique Corto, salut.
Salut, salut, salut à tous, ouais bah au pire même sans raquette, avec la main,
avec la main. C'est ça, au programme de cette matinale, retour sur le festival Vue du Québec, c'était évidemment ce week-end, ce sera dans un instant, j'en ai tiré un reportage d'une trentaine de minutes quand même, et puis nous devions ensuite diffuser des portraits d'agriculteurs ce matin, petit problème à l'export, ça arrive, ce n'est que partie remise, nous réécouterons donc, et c'est tout aussi bien, Jen qui est ornitho dans la région. À la musique ce matin, j'ai mis du Jean-Yann, tiens, pour changer un peu, et on y va, Corto, si tu veux bien, pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Samedi, sur une idée de Véro et de sa fille Lola, nous vous donnons rendez-vous à la Jeunette Verte pour un plateau consacré au mouvement LGBTQIA+. Une journée de plateau et de rencontres, de partage sur ce mouvement, ce que nous en connaissons, ce qu'il nous faut découvrir, les difficultés que les personnes peuvent rencontrer, connaître en milieu rural, qu'on parle d'identité sexuelle ou de genre, partager des expériences, trouver des solutions pour construire des ponts et pour en finir avec les discriminations. Le rapport sur les LGBT Gayphobie 2021 qu'a sorti l'asso SOS Homophobie est alarmant et met l'accent sur la pandémie de Covid qui a eu plusieurs conséquences pour la communauté LGBTQIA+. Je cite « La réduction des interactions sociales a développé un fort sentiment de mal-être et de repli sur soi, accentuant la vulnérabilité des personnes LGBTQIA+. Ces conditions ont été propices au développement de violences dans le voisinage et au sein des familles auxquelles les jeunes de cette communauté sont particulièrement exposés. » Il relate aussi que les médias parlent de plus en plus du mouvement, certes, mais avec une certaine homophobie et qu'on trouve aussi un plus grand intérêt de la part du grand public. En tout cas, c'est entre autres pour arrêter avec les discriminations qu'avec Radio Bartas, nous organisons ce plateau. Rendez-vous donc à 11h pour la présentation des assos présentes, tapage, alerte, SOS homophobie, mais aussi le planning familial et ENIPS. À 14h, il y aura la diffusion de L'Étincelle, une histoire des luttes LGBT+, et à 16h, il y aura un grand plateau dans lequel énormément de thèmes vont être abordés. C'est ce samedi à la Jeunette, tu viens. Allez, dans un instant, on revient sur les festivals Vue du Québec, mais d'abord on écoute Jean-Yann, Show Business. Show Business. Show Business. Show Business. Show Business. Le show business, c'est pas seulement les trucs en plume et le cancan. Show Business, comme son nom l'indique, c'est du spectacle et c'est du fric. Tout n'est que paradis, que frime, dans le populo et victime. Et comme ceux qui chantent ici, tout dans le monde est travesti.
Les élections présidentielles,
c'est du show business.
Les bombardiers nouveaux modèles,
c'est du show business.
Les gros scandales qu'on révèle,
c'est du show business.
Les politiciens qui s'en mêlent,
c'est du show business.
Un président qu'on assassine,
ils sont sur show business.
Et les témoins qu'on ratatine,
est-ce un show business en bien?
Un peuple qui meurt de famine,
nazis, show business.
L'agitation en Palestine,
c'est toujours du show business. Show
Watergate. Les élections présidentielles,
c'est du show business.
Les bombardiers nouveaux modèles,
c'est du show business.
Les gros scandales qu'on révèle,
c'est du show business.
Les politiciens qui s'en mêlent,
c'est du show business.
Un président qu'on assassine,
ils sont sous show business.
Et les témoins qu'on ratatine,
est-ce un show business en bien.
Un peuple qui meurt de famine,
nazis, show business.
L'agitation en Palestine,
c'est du show business.
Eh ben voilà, c'est parti, vue du Québec, là, c'est bien enclenché, on est jeudi, et nous sommes avec le premier réalisateur. Je te laisse te présenter pour nos auditeurs.
Oui, ben je m'appelle Nicolas Paquette, j'habite le Bas-Saint-Laurent, donc une région le long du fleuve au Québec, et c'est cette région-là qui est mise de l'avant cette année, ici à vue du Québec, et je viens présenter... Je viens présenter deux films, deux longs-métrages, dont La Règle d'or, qui est mon premier long-métrage. Donc, celui-là, je l'ai fait en 2010. Mais on m'a suggéré de présenter, entre autres parce qu'il y a aussi la fiction Le Souterrain, qui se passe dans la même région. Donc, on a d'abord un documentaire sur le milieu, bien, l'industrie minière, et ensuite un film qui nous présente une autre vision ou une autre facette de ce monde-là.
Quand on s'est rencontrés là, on vient de se rencontrer il y a 2 minutes, tu nous as dit, bon, ok, venez voir le film, mais vous allez ressortir un peu vénère. Pourquoi?
Ben, parce que c'est l'histoire d'une compagnie qui envahit carrément une petite ville, d'environ 2000 habitants, un peu ici comme à Florac, pour creuser la plus grosse mine d'or à ciel ouvert au Canada. Et pour ça, elle doit déplacer 200 familles, détruire 2 écoles. Donc, ça vient vraiment bouleverser le tissu social. Et c'est ce que j'ai fait dans le film. J'ai suivi des gens qui étaient déplacés, des gens qui perdaient leurs clients parce que c'est les clients qui étaient déplacés, des gens qui devaient, eux, rester sur le bord de la mine en construction parce qu'eux n'étaient pas déplacés, ils étaient comme à la frontière. Donc, c'est tout ce chamboulement-là que j'ai suivi pendant à peu près 2 ans.
Est-ce qu'il y a eu des mouvements de révolte, des mouvements qui se sont passés, des choses...
Oui. Il y a eu beaucoup de révoltes individuelles, mais il y a aussi des regroupements citoyens qui ont été appuyés, par exemple, par les mouvements syndicaux, par les groupes écologistes et tout ça. Mais la machine minière était tellement forte qu'en bout de piste, ils ont eu de faibles compensations par rapport aux dommages qu'ils ont subis.
C'est important pour toi de porter ce genre de film. Est-ce que tous tes films sont un caractère engagé comme ça?
Bien, toujours, oui, engagé, politique, mais pas toujours de la même façon. Ici, on est vraiment dans un enjeu, un film presque choc. L'autre film que je viens présenter, L'acte de la beauté, demain vendredi, lui présente plus une solution à nos problèmes actuels, quelqu'un qui agit de façon positive en créant une ferme collective écologiste.
Est-ce que tout le cinéma, tous les arts en général doivent être engagés?
Ben moi, c'est ce que je pense. Je le pense particulièrement maintenant. Je ne dis pas que tout le monde, bon, chorégraphe, metteur en scène, etc., devrait avoir un point de vue et un propos écologiste ou militant affirmé. Mais des fois, je pense que des petits gestes peuvent faire la différence. Dans ma démarche, il y a beaucoup de réflexions sur l'alimentation locale, l'alimentation écologiste. Et je pense que, par exemple, dans un roman, bien, les personnages devraient manger... par exemple, au Québec, on a des crevettes nordiques. Bien, les personnages devraient manger des crevettes nordiques plutôt que des crevettes de la Thaïlande. C'est subtil, ça peut être souligné à gros traits. Mais quand on le lit, quand on voit que des personnages peut-être auxquels on s'attache le font, ben inconsciemment, ça nous amène aussi à agir différemment.
Et comment tu t'es retrouvé ici à Florac?
Ben, c'est un peu les coïncidences de la vie. J'avais rencontré Guillaume à Québec et puis on a discuté. J'ai vu qu'il faisait une belle place à chaque année à une région différente du Québec. Et puis je lui ai dit, ben il y a vraiment des belles choses qui se passent dans le Bas-Saint-Laurent. C'est pas juste le plus beau coucher de soleil au monde. Il y a aussi des films, il y a des créateurs. Puis voilà, je suis ici maintenant.
Et je terminerai par une question. Quelle place aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas si ça doit pas être la première fois que tu viens en France.
Non, mais ça faisait un petit bout de temps quand même.
D'accord. Je sais pas ce qui s'est passé là ces derniers temps. Il doit y avoir deux, trois trucs voilà, dont on parlera pas. Quelle place tu penses que le cinéma québécois a en France et quelle place il devrait avoir au final?
Ben, je pense qu'il y a des échanges possibles parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, mais moi, l'amour du cinéma m'est venu des films qu'on présentait à la télévision tard le soir, des films français, des films européens, entre autres. Donc, il y a eu un moment où la littérature, le cinéma, il y avait vraiment beaucoup de place pour la France au Québec, et je pense que je sais pas, un retour de balancier, je pense qu'il y a comme un équilibre à trouver entre ce qu'on sent, qu'on s'échange d'un côté à l'autre de l'océan.
Merci beaucoup, Nicolas.
C'est un plaisir.
La règle d'or, on l'a programmée volontairement cet après-midi. C'était pas pour vous faire sortir un jeudi après-midi, c'était surtout pour faire le lien avec Souterrain, que vous allez tous venir voir tout à l'heure à 18h, pour avoir un diptyque sur la question des mines au Québec. Plusieurs films québécois parlent des mines.
Il n'y a plus rien. Ils ont tout saccagé. Regarde le tas d'arbres là, un tas d'arbres là. Ils ont poulé les fleurs, ils ont détruit les maisons, ils ont écrasé les chats d'abois, les serres.
Le maire dit, ils nous ont bâti des institutions, un quartier neuf. Ben, c'est pas des redevances. Ils ont détruit un quartier, ça me semble que c'est la moindre des choses qu'ils reconstruisent ou qu'ils détruisent. C'est pas des redevances, ça.
Tu sais, comment faire pour savoir ce qu'est le bord que t'es? T'es-tu un bord ou tu peux vraiment être neutre? Tu peux pas être neutre. Pas avec tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe. On regarde autour de nous autres, on voit tous les gens qui sont pauvres, ils dégagent, et les riches s'installent.
Toujours au Festival Vue du Québec. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Je vais vous laisser vous présenter pour celles et ceux, auditeurs, auditrices, qui ne vous connaissent pas.
Ben alors, je m'appelle Benoît Pilon, je suis cinéaste et j'ai deux films qui sont présentés à Florac cette année à Vue du Québec, c'est-à-dire un documentaire qui s'appelle Roger Toupin, épicier variété, et mon dernier film de fiction qui s'appelle Le Club Vinland.
Comment vous en êtes venu au cinéma?
Bonne question, ça commence à faire longtemps. En fait, c'est un film de Wim Wenders qui se passe au Portugal avec une équipe de tournage. Ça s'appelle L'état des choses. Et puis, j'avais peut-être 20 ans quand j'ai vu ce film-là. Et puis, j'avais jamais pensé que c'était possible de faire du cinéma. Et puis, en voyant ce film-là, cette équipe de tournage, la façon dont c'était tourné, la réflexion du film dans le film, qui est à la fois un film de genre et un film d'auteur, en fait, tout ça m'a beaucoup marqué. Et puis, à ce moment-là, j'avais fait auparavant, j'avais été d'abord à l'école secondaire, donc l'équivalent du lycée, j'avais fait une mise en scène de théâtre qui m'avait aussi beaucoup... ça avait influencé mon parcours dans la mesure où je m'étais dit « Wow, jouer, faire du théâtre, me faire de la mise en scène, c'est des portes qui s'ouvraient à moi. » Mais en voyant ce film-là, tout à coup, c'était vraiment la possibilité peut-être que faire du cinéma, c'était quelque chose qui pouvait devenir concret finalement. Puis éventuellement, j'ai fait une école de cinéma plusieurs années plus tard.
Aujourd'hui, le cinéma québécois, alors à Florac, c'est sûr, a une place importante grâce à Nouvelle Dimension, à Guillaume, Jimmy, voilà. À Paris, il se passe pas mal de choses. Quelle est la place du cinéma québécois pour vous en France aujourd'hui? Assez importante ou est-ce que vous devez encore travailler pour qu'elle se booste un peu?
Oh, je pense que... Pardon, je pense qu'on doit travailler encore beaucoup. Puis je voudrais lever mon chapeau d'ailleurs au travail qui est fait ici à Florac avec tout le travail que fait Nouvelle Dimension, le festival. Je pense que c'est en train vraiment de sortir en fait des limites de Florac, surtout avec le site, en plus le site internet, mon cinéma québécois en France, etc. Donc c'est un super travail. Sinon, je pense que c'est pas facile. Il y a des distributeurs qui commencent à s'intéresser. J'en ai rencontré d'ailleurs ici, qui s'intéressent au cinéma québécois et tout, mais il y a beaucoup de travail à faire pour que ça nos films voyagent en France un peu plus.
Et c'est pour ça que vous êtes là.
Oui, exactement.
Est-ce qu'il y a une définition du cinéma québécois? Alors, je vois le festival depuis le début un peu. J'ai vu pas tous les films, mais quelques-uns. C'est assez sociétal, c'est assez incroyable. Est-ce que vous avez une définition en fait qui vous correspondrait? Alors à vous, mais à vos collègues aussi.
Bien, je ne dirais pas qu'il y a une définition facile à faire du cinéma québécois dans son ensemble, parce que c'est quand même assez éclectique et ça l'est de plus en plus. Si on pense au film Babysitter qu'on a vu de Monia Chakri, par rapport à mon film Roger Dupin et ses variétés, évidemment, et c'est ces deux univers. C'est très éclectique. Moi, c'est sûr que j'ai un cinéma qui est peut-être ancré un peu plus au départ dans des réalités sociales, venant, ayant fait des films documentaires, ayant fait aussi tourner avec des Inuits dans le Grand Nord. Mon premier long-métrage de fiction, Ce qu'il faut pour vivre, est l'histoire d'un Inuk qui, en 1952. Donc, c'est à la fois un film historique et un film ancré dans une réalité historique et sociale. Donc, mais je ne pourrais pas dire que ça correspond à l'ensemble de mes collègues, loin de là. Je pense qu'il y a vraiment de plus en plus des films de genre. Il y a une panoplie de cinéastes maintenant qui explorent tous les genres. Alors, je pense que c'est aussi varié que n'importe quelle cinématographie nationale maintenant.
Benoît, vous avez des projets, là, dans les mois à venir?
Oui, j'ai des projets. J'ai trois longs-métrages de fiction en chantier qui sont à différentes étapes d'écriture. Mais là, je viens d'apprendre en étant ici là, que, en rentrant, je vais commencer à travailler sur une série télé. Donc, je vais être pas mal occupé à mon retour tout l'automne et jusqu'en janvier sur une série télé. Ouais.
Série télé, c'est totalement un autre rythme de travail.
Oui, complètement. Et ça fait plusieurs années que j'en ai fait déjà, mais il y a plus de 20 ans. Et puis là, ben voilà, donc là, j'ai l'occasion d'y revenir. Oui, un autre rythme de travail, mais c'est un très beau projet. C'est une série télé qui, au départ, est catalane, mais qui a été reprise dans plusieurs pays. Même en France, on en a fait une version aussi. Puis nous, on a une version qui a été faite l'année dernière, une première saison. Ça s'appelle Les Bracelets Rouges. Donc, il y en a une version qui a été faite, une première saison qui a été faite l'année dernière. Puis moi, je vais réaliser la deuxième saison. Voilà.
Merci beaucoup, Benoît. Et puis, bonne route, alors.
Merci, oui. Retour demain à Montréal.
Merci beaucoup.
Merci.
Nos élèves sont les ouvriers et les fermiers de demain. Notre travail, c'est de leur apprendre à lire, à écrire, à compter.
Promets-moi que tu vas tout faire pour que ça marche. Des chances comme ça, t'en auras pas d'autres.
J'aimerais souhaiter la bienvenue à votre nouveau camarade, Émile Lacombe.
Qu'est-ce qui se passe? Tout nouveau, tu commences déjà à faire du trouble?
Non, frère Lucien!
De toute façon, l'année prochaine, je suis même plus ici. Mon nom va me faire un trou moulin papier.
C'est tout à votre honneur de vouloir aider votre mère. Mais jusqu'en juin, vous êtes dans ma classe. Pas dans un moulin papier.
On arrive tout doucement à la fin du festival. Le rallye bat son plein.
Yann, depuis quelques jours.
Et le festival Midi Québec, et je suis avec Yann, qui est quand même le régisseur général du festival. Comment ça s'est passé, Yann?
Super bien.
C'est quoi le rôle d'un régisseur pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est?
Là, sur un festival comme ça, c'est plein de choses. C'est pas tellement technique. Quoique un peu, il faut gérer 2-3 micros, des petits timings, etc. Mais après, tu vois, c'est l'emplacement de la caravane qui est là. Aujourd'hui,
que tu peux continuer à ranger.
Ouais, c'est vrai.
Non, tranquille, là.
Et je sais pas, gérer la logistique de la poutine de dimanche midi. Le catering, en fait, on avait embauché quelqu'un pour le catering, mais du coup, être présent avec elle pour lui montrer comment fonctionne le lieu où il y a le catering. Je suis allé faire des courses aussi beaucoup. Pour des petits trucs qui manquaient pour le catering, mais pas que, pour ici aussi. L'installation de la sono qu'on avait dans la caravane pour la soirée salsa. J'ai géré le bar aussi. Enfin, j'ai pas tenu le bar, mais j'ai géré les approvisionnements du bar. Tu vois, ce matin, là, dimanche matin, hier soir, on avait quasiment plus de bière. Donc ce matin, je suis allé chez Bertrand à la Tarnonaise, qu'on embrasse fort, à Saint-Laurent-de-Trèves, pour récupérer des caisses de bière, aller à la cave, le bouchon pour récupérer du vin. Voilà, j'ai fait des petites choses. En fait, c'est plein de petites choses.
Et comment t'as senti l'ambiance? Parce que c'était la première, vraie depuis 2 ans. Hein, parce qu'on a eu une version un peu numérique l'année dernière, et puis une version en physique en octobre qui était différente. Est-ce que t'as senti un engouement? Moi, je suis venu à quelques séances. Il y avait un peu de monde quand même.
Il y avait du monde.
Alors qu'il fait beau.
Il y avait du monde.
Et comment t'as senti un peu tout ça? C'est quoi tes ressentis?
Écoute, j'étais un peu dans le jus toute la semaine. Non, c'était bien. En fait, il y a eu du monde aux séances. Un peu moins samedi soir. Le samedi soir, d'habitude, il y a du monde. Là, il y avait un peu moins de monde. On devait être sur une centaine, je pense. Vendredi soir, on a fait une bonne salle. Même le matin, c'était quand? C'était vendredi matin ou samedi matin, je sais plus. Il y avait les séances jeunes publics. Il y avait du monde un peu. Après, quand on dit du monde, c'est une vingtaine, tu vois.
Mais pour un jeune public, c'est bien.
Ouais, et même ce matin aussi, il y avait un peu de monde sur les cours. Et en fait, des séances de samedi matin, dimanche matin, quand il y a même une vingtaine de personnes, c'est cool, quoi. Et puis, ouais, il y a eu plein de passages. On a les habitués, mais il y avait des gens aussi qu'on connaissait pas. Et les gens sont plutôt contents. Il y a eu deux soirées qui étaient prévues à la cave du 25, un peu sur adhésion, mais qui étaient une soirée karaoké, une soirée salsa. Qu'on n'a pas pu faire parce que malheureusement on a eu un cas de Covid dans l'équipe. En fait, Daniel Racine, notre animateur, est confiné depuis quasiment pas le début du festival, mais depuis jeudi, je crois, parce qu'il a le Covid. Donc il intervient maintenant, mais sur l'écran, on a réussi à faire une visio. Il est là, hein, il est dans un appart à 50 mètres de la salle, mais confiné. Et du coup, il fait ses animations depuis. Et ses interviews à des réalisateurs présents depuis sa piole, en visio, ça on a réussi à faire ça.
Incroyable.
Ça
c'était un petit coup de fil. Donc vous avez quand même gardé une version visio.
Ouais.
Bravo.
Ouais, on a réussi à faire ça. Avec un écran posé sur la scène, avec un micro qui reprend le son de l'ordinateur. C'était un peu à l'arrache, mais ça le fait, il est là, présent sur l'écran à chaque fois. Mmh. Donc ça c'est cool. Mmh. Voilà.
Et toi, c'est quoi ta vision de cette année? T'as pu voir quelques films ou alors comme tu dis trop dans le jus?
Non, j'ai pas. Ouais, parce qu'en plus, je commence à voir un film et puis après j'ai un coup de fil, je me barre et tout. Du coup, puis je me bloque pas trop en fait sur les films parce que s'il faut que j'intervienne un peu ailleurs, je le fais quoi.
Tu reviendras l'année prochaine?
Si on me demande de revenir, je reviens. j'y suis depuis le début en fait.
Merci. J'aimerais beaucoup, bien. Merci beaucoup, mais Yann. Plaisir. Je te laisse plier la caravane.
Ouais, parce que du coup, je ne l'ai pas fait.
Merci, Yann.
Avec plaisir. Ciao.
Monsieur Mastro de Giuseppe, comment allez-vous ce matin?
On ne pourrait pas aller mieux.
Vous pouvez me dire quelle est la fréquence de vos rapports sexuels depuis votre arrivée ici?
Extrait du film Le bruit des moteurs, gagnant du prix du public cette année. Rencontre avec Samy et Laurine du jury avant l'annonce des résultats.
Alors, on dit qui a gagné ou qui a gagné?
Non, je crois qu'on n'a pas le droit de dire qui a gagné. On est tenu au secret professionnel, Ben.
Là, je suis maintenant avec deux membres du jury, ça me fait marrer. Ben, voilà. Comment les a pas on s'est entendu sur Bartas? Autant continuer. Samy, Laurine, bonjour.
Salut Ben.
Et il y a Robin qui est là aussi.
Salut Ben.
À l'occasion, en tant que spectateur, tu pourras toujours dire deux, trois mots si jamais tu veux. Alors, est-ce que ça a été simple d'être jury?
Ça a été... Non, ça n'a pas été simple. Enfin, en tout cas, les délibérations qu'on a fait cet après-midi n'ont pas été simples. Après, voir des films, oui, ça l'a été, quoi. C'était pas toujours simple, c'est-à-dire c'était pas tous égaux, il y en a qui n'étaient pas super bien. Donc, c'était difficile des fois de rester attentif. Mais sinon, d'être jury en soi, de délibérer, c'est compliqué. Et jury, c'est facile.
Laurine, je t'ai vu au bout du rouleau, je pense que c'était samedi, ou à la compète de court-métrage. Alors, il faut bien préciser, hein, vous êtes dans le jury des longs-métrages, hein, pas du court-métrage.
Ouais.
Mais à un moment, tu t'es dit, là, j'ai besoin de faire une pause.
Oui, parce qu'on a enchaîné 3 films. Du coup, c'était un moment en termes d'attention, puis il faisait hyper beau dehors. C'était bien de sortir, prendre l'air avant de revenir. Et donc voilà, on a fait une petite pause. Parce que c'est vrai, d'enchaîner 3 films, c'est quand même en termes d'attention et de jugement aussi. C'était pas pareil quand tu vois 3 films d'un coup ou quand t'en vois qu'un. Quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Vous étiez dans une salle à huis clos, en fait, dans le plus grand secret?
Dans un bunker.
Dans un bunker.
Caché dans la cage.
Ça fait peur, c'est pour ça que je serai jamais juré. Mais... Comment ça s'est passé en fait à l'intérieur de l'espace où vous étiez, quoi?
On a eu, ça a été, je crois qu'on a fait par élimination. Et on a éliminé les films un par un et après il y a resté trois et on a fait une finale, un vote sur papier.
Et puis d'explications aussi, non, ouais. On a quand même beaucoup parlé des films et ça c'est hyper chouette. Peut-être un truc dont je me rendais pas compte en tant que juré, c'est le fait aussi de... Enfin, t'as plusieurs configurations. Soit il y a un vrai coup de cœur, enfin, un film qui se détache complètement et que du coup, ça va vite. Ou alors, comme là, où c'était plus... pourquoi, à quoi ça sert et, de donner un prix, en fait. Enfin, aussi, se poser la question de savoir pourquoi tu le donnes, tu vois. Et ça, il y a des nuances là-dessus et c'était hyper intéressant de pouvoir en discuter. Mais en vrai, c'était à l'encrier, c'était pas... pas trop éloigné d'ici. Tu aurais pu coller ton oreille à la porte pour écouter les résultats.
Et alors justement, tu poses la question, à quoi ça sert de donner un prix comme ça pour un film à Florac ?
Ça sert, en tout cas, je pense qu'il y a certains films qui ont besoin d'un prix pour pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de premiers films, pour pouvoir continuer à produire après. C'est-à-dire qu'ils pourront justifier d'un film qui a été en festival, qui a gagné un prix, donc après aller chercher des financements pour un prochain. Je pense que c'est important par rapport à ça.
Robin, toi, t'étais juste là, alors je te pose juste une toute petite question. Vraiment, je pense que t'as vu beaucoup de films. Pour toi, si t'as un coup de cœur sur ce festival, ce serait quoi? Sachant que t'es pas dans le jury.
Bon, j'ai pas vu tous les films et j'ai eu des bons retours aussi sur des films que j'ai pas vus, notamment. Donc, moi, je vais parler que de ceux que j'ai vus. Entre autres, bon, j'ai eu un coup de cœur pour Babysitter, mais aussi, en fait, je crois que j'ai beaucoup apprécié le premier... celui qui est passé mercredi soir à l'ouverture. Ouais.
C'était le bruit des moteurs, je crois.
Le bruit des moteurs, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Il y avait quelque chose d'absurde qui me plaisait beaucoup. Et j'ai été accroché très rapidement dans le film, quasiment toute la durée du film. Mais après, je me suis laissé un petit peu perdre par tout ce qui était proposé. C'était intéressant, ouais.
Tout à l'heure, je parlais au réalisateur et justement, je leur ai demandé s'il y a une définition du cinéma québécois. Là, vous avez vu quand même quelques films et tout. Est-ce que toi, t'en as une, toi, Samy ?
Une définition du cinéma québécois, c'est une bonne question parce que c'est un cinéma qui est assez diversifié quand même. Enfin, là, on a vu des formes qui étaient vraiment, vraiment différentes. Est-ce que tu as une définition, Laurine, toi, du cinéma québécois ?
C'est dur comme question, Ben. Ce que tu nous poses, c'est une colle. Enfin, je trouve que c'est... Bon, non, j'avoue que je sais pas trop. Bah, moi, je connaissais pas la plupart des réalisateurs, réalisatrices. Enfin, même aucun, je crois. Monia Chokri, elle jouait dans les films de Dolan, mais sinon, je les connaissais pas. Donc, c'est bien, ça permet... C'est pour ça qu'on l'a fait aussi, pour découvrir une cinématographie qu'on connaissait pas beaucoup, enfin, à part Dolan ou Villeneuve ou Denis Arcand, enfin. Voilà, mais sinon, c'est vrai que... Je connaissais pas du tout. Voilà.
Est-ce que le grand gagnant du festival de Florac...
C'est Florac, finalement, de tout ça.
Il a fait bon.
Ouais, grave.
Et pourtant, il y a eu du monde. Ça veut dire qu'il y a un vrai attrait pour ce festoche.
J'ai l'impression, ouais, on est assez mal placé pour le dire parce qu'on n'a pas vu les autres années. En tout cas, ouais, je pense qu'il y a eu vraiment du monde. Moi, j'étais étonné de voir les salles quasi pleines tous les jours.
Alors même qu'il faisait hyper beau. Ouais, enfin, franchement, hier après-midi, dans la salle, je me disais, putain, les gens, ils sont quand même courageux. Parce que c'est vrai que tu vas... Enfin, là, on a une petite fenêtre de beau. On sait que ça va retomber. Donc, du coup, c'est bien de... enfin, voilà, il faut en profiter. Et du coup, c'est vrai que les salles étaient bien pleines.
La police, on s'est attardé à ces décès qui ont été trouvés à l'église et il s'est avéré que différentes personnes ont avoué vous avoir reconnu sur les images. Ces dessins présentaient des gros plans de pénétration, de masturbation. D'ailleurs, c'est vous la seule et unique personne qui a été identifiée sur les dessins.
C'est pas parce qu'on voit la face là-dessus que vous allez me coller la responsabilité de vos hosties de cartoon.
Voilà, c'est la fin du festival, Maëly. Tous les dés sont jetés. Pour le gagnant du... les gagnants, d'ailleurs, les gagnantes du festival. On va pas parler de ça, mais pour le coup, il a fait beau. Un temps absolument magnifique. Et pourcent des gens sont venus dans une salle de cinéma.
C'était la plus belle surprise de ce festival. On est super contents. On a travaillé longtemps et avec beaucoup d'espoir pour que ça se passe comme ça. Et ça a rempli toutes nos attentes. Et les gens sont contents de voir des films. Et l'équipe de bénévoles a été formidable et était contente d'être là. Tout le monde est content, en fait. Donc c'est une bonne fin de festival.
Là, ça y est, c'est fini. Sur les rotules ?
Ouais, mais contente. C'est le maître mot, je crois.
Qu'est-ce que tu retiendras finalement? Une image, un truc, qu'est-ce que tu retiendras de ce festival?
Moi, c'est mon cœur qui parle, la soirée salsa hier. Mais je sais pas si tu devrais mettre ça. Si?
Si, ça me va. D'ailleurs, je parlais à Yann tout à l'heure, on va rétablir une vérité, puisque les soirées ont été annulées à la cave du 25. Mais elle s'est passée où, cette soirée salsa?
Elle s'est passée là, devant la jeunette, sur la place, en plein air. On était une cinquantaine à danser. C'était très bien. Ce qui m'a bluffé, c'est de voir à quel point Flora qui est formidable. Que les personnes avec qui on travaille, avec qui on a réussi à construire ce festival, et puis de voir que dans une petite ville au milieu de la Lozère, on peut accueillir des cinéastes qui viennent de loin, des films vraiment de qualité, des professionnels qui viennent débattre, un public qui remplit la salle, et des gens qui ont envie de bosser, de nous aider. Donc c'est magique en fait.
Est-ce qu'il y a un réalisateur, réalisatrice que tu veux mettre en avant, qui a été sympa, sachant qu'ils nous ont accueillis à chaque fois, nous, pour nous, médias, vraiment de la meilleure façon?
Eh bien, si tu n'as pas encore parlé avec Nicolas Paquet, on a fait un stage avec des... Si, en fait, enlève la salsa. Je suis fatiguée.
Il n'y a pas de souci.
Mais non, le moment phare pour moi de la semaine, et le réalisateur avec qui tu devrais parler, donc Nicolas Paquet, ça a été donc le stage qu'on a fait avec des ados. On a écrit un film avec ce réalisateur et eux, et on l'a tourné donc cette semaine sur 3 jours. Et là, on vient de terminer le tournage et c'était vraiment un super beau moment.
C'est marrant, il faudrait que je le retrouve, Nicolas, du coup, parce qu'on l'a eu en début de festival. Ce serait assez intéressant de le revoir. Je sais pas si...
Il est parti chez lui, mais il va revenir bientôt.
Ok.
C'était encore quelques minutes pour attendre.
Ouais, Carl. Et merci beaucoup.
Ouais, t'enlèves la salsa, tu mets ça.
Ouais, non, mais t'inquiète.
T'es fatigué.
Je pense qu'à la fin, ça finira par un petit café qui...
C'est magique.
Et oui, le festival Vue du Québec a encore cartonné cette année et on y a vu pas mal de sourires et de surprises. Pour ce qui est des gagnants pour les courts-métrages, le Grand Prix du Festival revient au Vent du Sud d'Océane Roux. Un court-métrage sur la communauté ménonite qui s'installe dans le village de Valgagné en Ontario. Atalaya Desmarouf obtient le prix du jury à la recherche de Jerry Roof, navigateur disparu en 97 lors du Vendée Globe. Et le prix du public est décerné à Charmante, solitude d'une vieille dame, qui espère trouver l'amour en ligne. Le festival revient, je pense qu'on peut en être sûr l'année prochaine. Retrouvez encore plus de films québécois sur la plateforme moncinémaquébécois.fr. On se retrouve dans un instant pour la rediff de l'interview de Jen qui est ornithologue. On écoute d'abord l'eunuque Jean-Yann.
Dans la ville de Bassora, aux 1000 palais d'or, sachant que la meilleure loi est celle du plus fort, vivait un puissant calife cruel et qui despotiquement tenait dans ses griffes le destin de l'Arabie. L'Arabie. Le monarque était perverti jusqu'au bout des talons, et tous les jours dans des orgies dignes d'un étalon. Tout comme ceux qu'on éduque chez les jésuites en carême, il préférait les eunuques aux filles de son harem. Son harem. Dans le harem de Bassora, les épouses vexées de ne jamais sentir du roi les hommages empressés cherchèrent un subterfuge qui fasse à leur souverain les effets d'un vermifuge, vermifuge mi-raisin. Oh, quel humour alors! Et bientôt le sort désigna la belle chez Irazade qui était douée d'un don d'imagination. Et pendant 1001 nuits, elle lui fit des récits qu'il trouvait fort à son goût des contes à dormir debout. Au bout de 1001 nuits, quand l'histoire fut finie, pour prendre l'air, il sortit dans les jardins du palais. Mais voilà Tipa qu'il surprit son eunuque favori pratiquant la sodomie avec un touriste anglais. De rechef, le monarque outré fit venir le bourreau et commanda que fût coupée la tête du maraud. Mais au moment où sa nuque allait être raccourcie, humblement le bel eunuque se mit à genoux et dit: Ô commandeur des croyants, maître de l'Orient, écoute ma requête. Ne me fais pas couper le cou, ce serait inutile et bête. Je suis eunuque de métier, alors daigne considérer qu'un eunuque décapité, ça n'a vraiment ni queue ni tête.
Nous sommes ce matin avec Jane. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tu es ornithologue. Quel terrain de jeu que le parc national des Cévennes.
Eh oui.
Eh oui.
Eh oui, oui, on a de la chance d'avoir une faune magnifique, riche, dans ce parc national des Cévennes.
Alors, commençons par les mauvaises nouvelles, puisqu'il n'y a pas très longtemps, un petit aiglon avait vu le jour, et ce petit aiglon est mort. Tu ne savais pas?
Non.
Ok, de déshydratation et de... Voilà, mais je te l'apprends.
Okay.
On commence par ça, au moins c'est fait.
Ok, super.
Et oui, parce que c'est toi qui m'avais appris qu'il y avait des aigles,
oui,
dans le parc national, en fait.
Oui.
Et des royaux, en plus.
Oui.
Et alors, ils sont où? La dernière fois, tu n'avais pas voulu me le dire.
Ah non, sache, on balance pas les infos là-dessus. Trop sensible, trop sensible.
Et la preuve, là, il y a un petit aigle. Alors, ça peut arriver que comme ça, que des oiseaux meurent de déshydratation?
Eh ben oui, bien sûr. Oui, oui. Après, c'est la sélection naturelle. Hein. Ils vont mourir de faim. Ils vont mourir. Chez les aigles royaux, il y a un phénomène qui s'appelle le caïnisme. Souvent, la mère va pondre plusieurs œufs. Il y a plusieurs petits qui vont naître. Et le plus grand des deux, généralement, va tuer son frère ou sa sœur. Voilà, c'est un phénomène connu chez les aigles royaux.
Incroyable.
Ouais.
On en apprend tous les jours comme quoi. Et il y a eu aussi l'année dernière un gypaète barbu assassiné.
Oui.
Ça doit faire mal à l'ornitho que tu es.
Oui, ça fait mal. Oui, oui,
T'as eu des contacts avec justement de la Ligue de protection des oiseaux ou sur cette affaire-là?
À ce sujet-là, non, 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 mais on est tous... Tous le même combat, c'est atroce. Autant d'énergie investie dans la réintroduction de ces espèces, réduit à néant en 4 secondes par un tir, c'est... Ouais, c'est écœurant.
Ceci dit, depuis 2 ans maintenant que tu es là, on a fini avec les mauvaises nouvelles. Hein. On
okay.
passe au positif, yes, et aux bonnes choses. Ça fait 2 ans maintenant que tu es là, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
Est-ce que la réserve ornithologique qu'est le parc se porte bien?
Oui. Non, en règle générale, on le sait tous maintenant, en France, le déclin des oiseaux est assez terrible. On sait pourquoi.
Alors pourquoi?
Bon, en règle générale, c'est l'agriculture intensive hein, qui entraîne le déclin des insectes, le déclin des oiseaux.
Je croyais qu'on avait fini avec les mauvaises nouvelles, mais non, en fait.
Non. Non, 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 oui, bien sûr, ouais, c'est...
Et c'est donc l'agriculture intensive qui est...
Oui, bah oui, parce que l'agriculture intensive, c'est quoi? C'est des grandes parcelles sans haies, donc perte d'habitat pour les oiseaux, perte de nourriture. On sait très bien que dans ces grandes monocultures, il y a très peu de vie. Et le si peu de vie qui reste, bah, il va être contaminé par les pesticides notamment. Donc perte de nourriture, perte d'habitat, déclin des oiseaux, voilà.
Ma chère et tendre que j'embrasse, d'ailleurs, ouais, a mis une mangeoire à oiseaux. Est-ce que c'est conseillé de le faire?
Oui, c'est bien. Il faut le faire dans les semaines les plus froides. Il faut le faire. C'est leur proposer un peu de nourriture. Après, il ne faut pas le faire toute l'année non plus, parce que ça empêche les oiseaux d'aller chasser par eux-mêmes. En fait, ce qui est important, c'est de le faire vraiment les semaines les plus froides. Ce qu'on peut faire tous, par contre, c'est de leur mettre de l'eau à disposition toute l'année. Ça fait le même effet pour nous, les petits observateurs qu'on est. Et il n'y a pas de risque après.
Et pareil, à leur donner à manger, mais des trucs bio, sains, enfin, comme nous,
ça,
quoi, en fait.
Ouais, ouais. Ce qu'ils vont préférer, ça va être les graines de tournesol, notamment.
C'est noté.
Voilà, ouais.
Je vais aller en acheter de ce pas.
Ouais.
Dis-moi, quels oiseaux partent des Cévennes l'hiver et migrent vers des cieux plus cléments?
Il ouais, y a beaucoup de petits passereaux qui font ça. Moi, celui que je tiens le plus à mon cœur, là, parce que je suis sur le Cosmé-Jean et qu'il y en a beaucoup, ça va être la pigrièche écorcheur. La pigrièche écorcheur, qui tient son nom de la façon dont elle capture ses proies, qu'elle va aller empaler sur des épines d'arbustes ou alors sur des grillages, des barbelés. Celle-ci, elle nous quitte en septembre et puis elle reviendra l'année prochaine. Ouais. Mmh.
Vers printemps, pareil, oui, mars, mars, avril.
Oui, ouais, ouais. Mmh. C'est ça.
Et justement, d'ailleurs, comment font ceux qui restent et comment ils survivent?
Eh ben, bon, pour lutter contre le froid, ils vont faire, il y a un petit phénomène comme nous, ils vont frissonner déjà, voilà. Ils vont se limiter à deux activités principales en journée. Ça va être aller rechercher un peu de nourriture et puis bien entretenir leur plumage. On sait que le plumage chez les oiseaux, c'est important. C'est ce qui leur permet de voler et donc de vivre, voilà. Et puis après, il y a plein de choses à manger, même pour ceux qui restent. Hein. Pour les carnivores, ben pour l'aigle royal, si on en parle, ben y a toujours des petits mammifères à manger. Il y a des charognes. Pour les passereaux, il y a des petites graines qui peuvent aller choper à droite, à gauche. Voilà. Mmh. À manger encore.
Ils sont phénoménaux, ces oiseaux. Qu'est-ce qui te surprend toujours ? Qu'est-ce qui te surprendra d'ailleurs toujours chez eux ?
Je sais pas, juste les voir, pour moi, c'est incroyable. Rien que, enfin, juste... bon, ici, il y en a beaucoup dans les Cévennes. Le vautour fauve, par exemple, si on le voit, moi, ça restera toujours un émerveillement total de le voir. Je m'en lasserai jamais, quoi. Je suis émerveillée en permanence.
J'avoue, auditeur, auditrice, elle a les yeux qui pétillent en parlant. Quel conseil tu donnerais à un enfant ou un jeune qui veut devenir ornitho ? Qui aurait ce rêve-là?
Il va faire beaucoup de sorties de terrain et puis croire en son rêve, c'est possible. Mmh. C'est possible de devenir ornithologue. Passer beaucoup de temps dehors, observer, rencontrer des gens, apprendre toujours. Mmh. Ouais.
Le partage. D'ailleurs, tu es intervenante, si je ne m'abuse, pour nos amis du Réel 48, en ce sens que tu participes à ce qu'ils appellent les rendez-vous du papillon fringant.
Oui.
Qui fais-tu ou qui as-tu fait?
Qu'est-ce que j'ai fait
là-bas? Ma question, elle était super bien posée, je trouve.
Et ben, j'ai proposé des ateliers nichoirs pour les rendez-vous du papillon fringant. Donc, c'est-à-dire que le temps de la construction et de la décoration d'un nichoir à mésange charbonnière, on va parler d'oiseaux. Donc, on a parlé oiseaux. voilà, de l'importance de donner des habitats de substitution justement aux oiseaux. Comme on le disait, il y a beaucoup, enfin, le déclin des oiseaux est en partie lié à un déclin de leur perte d'habitat. Donc leur proposer un habitat de substitution, comment le faire, ou le mettre, ou l'installer. Voilà, comment les observer sans les déranger après derrière, parce que c'est beau de mettre un nichoir, mais il faut pas les regarder dedans après.
J'avoue, ouais, après on est curieux. Est-ce que les oiseaux connaissent la routine? Je parle en sens où ils ont leurs habitudes et des heures particulières.
Ah bah oui, les oiseaux, de toute façon, ils sont là en hiver, comme je te le disais, il y a deux activités principales, aller chercher à manger et se nettoyer, donc oui, c'est une routine, ouais.
Mais ils vont bosser à 8h le matin.
Oui, c'est ça, le matin, ils s'activent, ils vont chercher à manger. L'après-midi, ça se repose, ça se nettoie un peu, puis ça repart chercher à manger un peu plus tard. Ouais.
Hormis les Cévennes, quelle est la plus belle région que tu as pu visiter dans le monde où tu as vu les plus beaux oiseaux?
Ah, les plus beaux oiseaux, c'était en Amazonie, c'est sûr. Après, l'endroit que j'affectionne le plus et que je trouve hyper sauvage et où on peut voir de tout, c'est l'Écosse. L'Écosse, pour moi, c'était vraiment une surprise. C'est merveilleux. Les oiseaux, les mammifères marins.
Pas l'Écosse sauveterre ou l'Écosse des gens.
Ah non, l'Écosse, Scotland.
C'est les oiseaux marins?
Oui, aussi, ouais. Les oiseaux marins, ils ont aussi de l'aigle royal là-bas. Ils ont du pigargue à queue blanche, qui est un aigle royal plus, si on peut dire.
Pigargue à queue blanche?
Pigargue à queue blanche, oui. Vous voyez, faut imaginer le pigargue américain, celui avec la tête blanche. Mm-hmm. Bah, on a le même en Europe, sauf qu'il n'a pas la tête blanche, il a la queue blanche. Voilà.
Je mets une photo sur notre site dans un instant, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et si là, tu devais repartir, donc tu repartirais en Écosse ou en Amazonie?
Les deux.
Non, en Amazonie, parce que j'ai pas vu l'oiseau ultime que j'aimerais voir une fois dans ma vie, qui est la harpie féroce, qui est un énorme rapace qui mange des singes. Voilà.
Ça va en faire des photos sur notre site.
Oui.
Et justement, comment ça marche pour toi là, depuis que tu t'es installée en Cévennes? Est-ce que tu es plutôt contente? Ton activité se développe?
Oui, je suis assez contente. Ça se développe petit à petit. Là, je travaille à essayer de développer ça pour essayer d'en vivre un peu hors saison, parce que pour le moment, c'est plutôt saisonnier comme activité. Mais je travaille. Là, je vais essayer de démarcher les ESAT, les EHPAD, les centres de loisirs, tout ça, pour essayer de développer mon activité et pouvoir en vivre toute l'année.
Et justement, est-ce que ça... Alors, la question est un peu bizarre. Est-ce que, toi, le fait qu'on soit confiné et que la nature reprenne ses droits, ça t'a plutôt enchanté?
Ah bah ouais. Non, ce qui était intéressant là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient, depuis qu'on est confiné, il y a de plus en plus d'oiseaux. Je ne pense pas. Par contre, on était chez nous, on était posés, donc on avait plus d'attention à leur donner, donc se rendre compte que, bah oui, en fait, on est entouré d'oiseaux tout le temps. Et je pense que c'est ce qui a un peu éveillé les gens sur le confinement, en se disant, tiens, il y a plus d'oiseaux. Moi, je sais que la plupart des gens que j'ai eus cet été, c'est ce qu'ils me disaient, il y a plus d'oiseaux, j'ai entendu plein de choses. Non, pas forcément, mais par contre, c'est bien parce que ça permet aux gens juste de s'éveiller un peu à ça. Et c'est un peu les protéger que d'avoir conscience qu'ils sont là autour de nous, quoi.
Mmh. Et d'ailleurs, on vous conseille, moi je le fais chez moi, mais c'est de regarder par la fenêtre et de noter sur un bout de papier les oiseaux qu'on voit. Il faut le faire.
Oui, c'est la LPO qui a lancé ça. C'est un programme qui s'appelle Oiseaux des Jardins, il me semble. Et oui, il faut faire ça, c'est intéressant. C'est les sciences participatives, tout le monde y met un peu. Et puis comme ça, on peut se rendre compte aussi de la bonne santé ou non des populations d'oiseaux. Mmh.
Mmh. Est-ce que le territoire d'un oiseau dépend de son physique, de sa grosseur, de son...
Non, ça va dépendre de la ressource alimentaire en général. Et puis ça dépend de... En fait, ça dépend de plein d'espèces, ça dépend de plein de choses. Il faut que... Dans son territoire, en général, il faut qu'il ait, pour un mâle, un poste de chant, si c'est un passereau ou un oiseau chanteur, une aire, donc un endroit où il va pouvoir faire son nid, un territoire de chasse où il va pouvoir du coup aller chercher à manger. Et donc la taille du territoire va dépendre de tout ça. Est-ce que tout ça peut être plutôt dans un endroit un peu restreint, dans un petit territoire ou dans un très grand territoire pour certaines espèces?
Un oiseau est-il fidèle en amour?
Alors ça dépend, il y a plusieurs... ça dépend des oiseaux. On va dire qu'en général, si on veut vulgariser un peu, les grands oiseaux, les grands rapaces, tout ça, oui, vont être fidèles. Après, chez les petits passereaux, il y a plusieurs types de contrats de mariage, si on peut dire. Ouais.
Comment tu fais pour retenir toutes les espèces? Est-ce que tu les connais toutes?
Bon, non, je pense pas être... j'apprends tous les jours, tout le temps. Après, oui, c'est beaucoup de temps à rechercher, à regarder des documentaires, à sortir sur le terrain. C'est beaucoup de temps. C'est de la curiosité, en fait. Ouais.
Est-ce que, justement, par exemple, les chants d'oiseaux qui sont reproduits de manière informatique ou alors qu'on entend dans des bruitages, etc., sont fidèles à la réalité?
Alors, ça dépend. Généralement, dans les films, ce qu'on entend être le bruit de l'aigle, souvent, c'est un chant de bus variable.
Et bim!
Ça dépend.
Voilà,
ça dépend.
Steven Spielberg, prends ça.
Ouais.
Donc, ils savent pas.
Non, ils savent pas. Puis peut-être c'est plus parlant aussi pour les gens en général.
Quel conseil tu donnerais de livre pour commencer l'initiation aux oiseaux?
Alors, la Bible, ça va être le guide ornitho qui est proposé par Delachaux et Niesley, qui est juste la Bible. S'il y a un livre à avoir sur les oiseaux, c'est celui-ci. Il y a vraiment toutes les espèces européennes. Mmh. Et c'est le livre à avoir.
voilà. Pour le conseil, jane-ornitho.com et ta page Facebook, c'est Jane, les initiations ornitho, c'est ça?
C'est ça.
Merci beaucoup, Jane.
Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir. Et tous les liens sont dans un instant sur notre site, évidemment. Et pour finir, comme dirait l'autre, certains l'aiment cru et d'autres cuit-cuit. Bonne journée à toi et à bientôt.
Bonne journée, merci beaucoup, Ben.
Quel esprit. Quel esprit.
Quel génie.
Oh merci, je n'en attendais pas tant. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi pour parler du premier festival de conférences gesticulées à Florac. Ce sera fin avril à L'Encrier. Merci Corto.
Et de rien, avec plaisir.
Et évidemment, tu seras avec moi, j'espère, samedi à partir de 11h à la Genette Verte.
Ah, si Dieu le veut bien.
Laisse-le où il est. Donc oui, comme je vous le disais, à 11h à la Genette Verte pour la journée consacrée au mouvement LGBTQIA+. Ce sera en direct sur nos ondes de 11h à midi et à partir de 16h. Il y aura aussi une projection à partir de 14h, l'étincelle. Voilà, merci à toutes et tous de nous suivre. On va se quitter avec Jean-Yann dans un registre dans lequel on le connaît moins. Ça s'appelle La Gamberge. Prenez soin de vous à samedi ou à lundi, restez bien sur le 107, ciao.
Moi, je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mirliflore, connaître la faune et la flore, faire une arche de mon bateau. Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte, tant sur terre que sur la flotte, par les mers et les continents. Si je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard, je l'ai compris beaucoup trop tard. Je regardais trop ce qui brille. À t'en rêver, j'ai gâché mes vingt berges. La gamberge, la gamberge a fait de moi un pauvre homme de plus. Même si je voulais brûler un cierge à Saint-Antoine, au patron des perdus, je ne retrouverai pas mes vingt berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes vingt berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je me voyais le sceptre en main, l'hermine sur le dos, en tête une couronne. Des courtisans pour ma personne se courberaient bien bas les reins. Autour du monde de mon nom, on écrirait l'histoire et devant ma puissance trembleraient les états, je pense que j'avais perdu la raison. Car de ces folies de jeunesse, de tous ces désirs insensés, à petit feu j'ai gaspillé mes vingt ans, toute ma richesse. Si j'ai vieilli, maintenant je gamberge, mes vingt berges, avec ma vie sont à jamais perdues. Même si je priais la bonne Vierge de me donner quelques années de plus, je ne retrouverai pas mes vingt berges, ni les amours que je n'ai pas connus. Je ne retrouverai pas mes vingt berges, ni les amours que je n'ai pas connus.